Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Et c'est le mini-épisode 38 pour le mois de juillet 2010. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle technologie, internet et gadgets. Et là, c'est un petit peu ironique qu'on parle de technologie parce qu'on est en train d'utiliser une technologie d'il y a deux siècles, c'est-à-dire le téléphone. Jeff est à Paris, à l'hôtel, en voyage, et son Wi-Fi ne marchait pas assez bien. Donc, on a appelé l'hôtel, on est passé par la réception, par la musique d'attente et tout. Les gens de la chatroom ont pu en profiter d'ailleurs. Et on est au téléphone, c'est pour ça que la qualité n'est pas aussi bonne que sur Skype. Tu vas bien, Jeff ? Tu t'endors, c'est ça ?
Non, non, je m'endors pas. Oui, ça fait presque 40 heures que j'ai pas dormi, donc bientôt je vais m'écrouler et ronfler, mais c'est un plaisir d'être ici plutôt que là-bas. Donc bonjour de Paris, où j'ai passé une excellente journée, où j'ai eu le plaisir de dîner avec notre ami Patrick, et
ouais,
où j'ai pu rencontrer plein d'entrepreneurs, ce qui était très sympa.
C'est un petit peu à chaque fois en fait que tu viens en France, on a une communication de moins bonne qualité que quand t'es en Californie, ce qui est quand même invraisemblable.
C'est oui, alors que pourtant, on sait très bien qu'en France, il y a une bien meilleure infrastructure au débit qu'en Californie, mais pour une raison qui m'échappe, les hôtels français sont absolument pourris.
Honteux. Yann, comment vas-tu ?
Ben écoute, ça va bien. Enfin, je dois t'avouer que je suis assez, enfin la gorge en piteux état, mais sinon, je suis toujours content d'être avec vous pour l'enregistrement de ce mini épisode. Et coucou à la chatroom.
Et coucou à la chatroom. Et moi aussi, je suis complètement décalqué. Ça s'entend peut-être pas beaucoup parce que je fais un effort, mais je suis
Si, ça s'entend.
D'accord, ok. Bah voilà, parfait. Et donc, ça promet un épisode super dynamique et hyper amusant. On est tous massacrés, ça va être super cool. Pour ceux qui sont étonnés de nous retrouver un petit peu plus tôt que d'habitude dans la chatroom, en fait, je ne serai pas disponible, comme j'y faisais allusion dans l'épisode précédent, je ne serai pas disponible lundi prochain, donc on enregistre quelques jours avant, et on va faire un épisode beaucoup plus rapide que d'habitude. Donc voilà, c'est un épisode un petit peu spécial, parce que comme vous le savez, j'aime pas sauter un épisode, je pense que la régularité est importante dans les podcasts, et tant que je peux, j'essaye toujours de toujours fournir quelque chose, donc cette fois-ci, ça sera un mini-épisode 38 qu'on aura enregistré quelques jours à l'avance, mais j'espère qu'il vous plaira tout de même. On va dire, je suis sûr qu'il vous plaira puisque c'est notre épisode avec Jeff et Yann et que c'est toujours un plaisir.
Je vais en profiter d'ailleurs pour reconnaître notre ami Patrick et son intégrité par rapport à ce cher podcast, parce que moi j'ai dit, bon écoute, pour une fois, si on ne peut pas le faire, c'est peut-être pas grave, on peut te le permettre. Il a dit non, on va le faire. Et en fait, il est en train d'enregistrer le Rendez-vous Tech plutôt que de faire sa valise, parce que moi je le sais, il part demain. Donc bravo Patrick. Bravo Patrick.
Merci, c'est gentil. Bon, alors ce qu'on va faire en fait pour ce mini-épisode, c'est qu'on va prendre, on a une liste des news importantes qui ont fait l'actualité cette semaine, et on va, chacun d'entre nous, donc nous trois, on va en prendre une ou deux, et on va décider en fait lesquelles étaient les plus importantes pour nous, et en parler succinctement. Donc je vous propose que... Bon, on va laisser l'honneur à Yann, parce qu'il n'a pas été beaucoup présent ces derniers temps, donc... Je te propose que tu nous ouvres le bal et que tu nous dises quelle était l'info. Ah pardon, excusez-moi quand même avant, il faut absolument que je remercie les charmants auditeurs qui nous ont laissé des pourboires, parce que sinon ça, je ne pourrais pas me regarder en face demain. Cette fois-ci, il y a Jérémy, Raph et Alan qui nous ont laissé un petit pourboire sur le site et je les en remercie du fond du cœur comme toujours. Bref, voilà, Yann, qu'est-ce qui a été important ces deux dernières semaines?
Alors, en ce qui me concerne, moi, c'est une news qui est apparue, je crois, hier. C'est la mort du Microsoft Kin, la mort du téléphone que Microsoft avait lancé, le Kin, dont personne ne comprenait véritablement l'utilité, la fonction dans ce monde où on a des téléphones qui sont ultra perfectionnés et complets. Microsoft avait sorti un peu cet alien, ce téléphone assez étrange par rapport à ses concurrents.
Tu peux rappeler de ce qu'il faisait, le Kin ?
Oui, tout à fait. Donc en fait, c'était un téléphone qui était très petit et qui était très orienté réseaux sociaux. Donc dès que tu l'allumais, donc tu tombais pratiquement sur ton Facebook et ton Twitter, et donc tu pouvais voir le statut de tes amis, partager des photos, des trucs comme ça. C'était vraiment très très orienté réseaux sociaux. Et le truc qui avait étonné beaucoup les gens, c'est que il y avait pratiquement que ça, en fait, dans le téléphone. Il n'y avait pas de store. Il n'y avait pas toutes les friandises qu'on trouve sur les Android ou sur un iPhone. Et pourtant, on se retrouvait quand même à payer un plan data, un forfait téléphonique plein pot. Et donc, du coup, ça faisait un peu cher quand même pour aussi peu de fonctionnalités. Et donc, ce que beaucoup de gens avaient imaginé a fini par arriver, mais relativement tôt, je trouve, c'est l'arrêt complet de la production de ce téléphone. Après deux mois après qu'il soit annoncé, enfin qu'il soit sorti aux États-Unis, donc il aura même pas eu le temps de sortir en France finalement.
C'était vraiment, il a été annoncé il y a deux mois, je crois, il est sorti.
Ils ont fait un launch en fanfare où ils ont fait venir la presse, etc. Ils ont sorti le Kin et son petit frère ou son grand frère, etc. Personne n'a trop compris ce que faisait ce truc. Manifestement, c'était focalisé sur plutôt les jeunes qui veulent un accès facile et potentiellement pas cher à leurs réseaux sociaux. Le problème, c'est que
c'était la petite machine, l'équivalent de la machine à SMS du Sidekick, sauf que ça faisait pour les réseaux sociaux, quoi. Voilà, c'était pas bête comme approche a priori, non?
Non, mais j'ai montré ça à mon fils en disant qu'est-ce que t'en penses, et puis il me dit. Attends, tu vas pas me piquer mon iPhone.
Mais j'y croyais un petit peu quand on se produit, parce que j'ai donc une petite sœur qui a 21 ans et elle comprend juste pas pourquoi j'ai un iPhone. Elle me dit mais c'est vraiment trop gros. J'aime bien les trucs qu'il y a dedans. Mais je trouve que le téléphone est trop gros. J'aime pas la couleur, en fait. Moi, j'aime bien le rose. Non, mais c'est un véritable problème, puisque ma sœur, elle passe, je dirais, dès qu'elle est éveillée, elle passe pratiquement 80% de son temps sur Facebook. Elle fait que ça toute la journée. Et elle trouve l'iPhone trop gros. Et ses copines sont pareilles. Elle n'a pas de copine avec un iPhone. Elle n'a pas du tout la mentalité geek. Et je me dis que pour quelqu'un comme ça qui passe sa vie sur Facebook et qui veut un petit truc mignon et qu'elle peut glisser dans son petit sac à main, c'est vraiment une masse de clients potentiels. Et donc, je pense que ce type de produit a sa place. Maintenant, ça a peut-être pas été correctement marketé ou vendu.
Ce qui est sûr, c'est que s'il l'arrête aussi vite, c'est qu'il a pas marché du tout. S'il s'était bien vendu, je pense qu'il ne l'arrêterait pas. Et il y a une chose quand même qui était assez intéressante sur ce produit, c'était le système du Kin Studio, qui vous donnait un espace sur Internet où toutes vos interactions sociales, surtout vos photos en fait, étaient mises à jour instantanément sur le Kin Studio, et donc vous n'avez pas besoin de vous soucier d'envoi d'images, d'archives d'images, de transferts sur votre ordinateur, etc. C'était immédiatement envoyé sur votre album photo du Kin Studio, et c'est une idée vraiment intéressante, et le truc était bien développé. Et là, on peut se dire que l'équipe de Kin qu'ils vont transférer vers Windows Phone 7 va pouvoir mettre à profit cette connaissance pour améliorer aussi Windows Phone 7 et peut-être y inclure ce type de fonctionnalité, ce qui serait une bonne chose. Mais il est certain que ça fait vraiment pas très propre de la part de Microsoft de mettre à la poubelle ce système 2 mois après sa sortie. Peut-être qu'ils ont dans l'esprit d'unifier leur expérience utilisateur, on en avait déjà parlé, pour que Windows Phone 7 couvre désormais tous les appareils mobiles et qu'il n'y ait pas une fragmentation du marché, ça serait peut-être intéressant, mais il n'empêche, ça fait quand même bizarre qu'ils le mettent au placard aussi vite, quoi.
Ouais. Mais bon, en même temps, quand t'as des éditeurs qui travaillent sur des jeux qu'ils ne trouvent pas intéressants, bah, ils arrêtent la production en plein milieu, quoi. Donc,
Oui, bah, effectivement, ça peut être une façon de limiter les dégâts et de ne. Mais bon, là, ils l'ont quand même sorti, quoi.
Ouais, donc, c'est vrai. Enfin, voilà, c'est, en ce qui concerne l'actualité de cette semaine, c'est ce qui m'a le plus marqué. Et, bah, je propose qu'on demande à Jeff, à lui, ce qui a retenu son attention cette semaine.
Bon, on va rester dans le domaine du téléphone, et je pense qu'il y a deux choses qui ont retenu mon attention. La première, c'est donc la sortie de l'iPhone 4, et les queues qui ont été absolument monstrueuses. Comme vous le savez, je suis à côté de l'Apple Store, et il y a eu à peu près 8 heures de queue. Certaines personnes ont fait 8 heures de queue. Je répète, 8 heures de queue pour récupérer un iPhone 4 qu'ils n'avaient pas réussi à retenir, puisque les précommandes n'avaient pu durer que 12 heures ou 8 heures, il y a eu plein de problèmes, etc. Ils en ont vendu 1,7 million en 3 jours, ce qui est énorme, absolument gigantesque en termes de succès. Et le problème, c'est que ce truc, c'est un sac à merde. Excusez-moi, je suis désolé, mais j'en ai
Dis-moi, pour que Jeff dise ça d'un produit Apple, que vraiment...
je suis presque tombé de ma chaise, je ne m'attendais pas du tout. On n'avait pas eu un briefing avant l'épisode.
Je peux finir.
Vas-y.
Je t'en prie.
Et je tiens à le dire, notre ami Yann ne m'a pas payé. Donc le problème que j'ai, c'est un super device, je l'adore, il est très design, donc le téléphone lui-même est fantastique. Le problème, c'est la réception. Vous en avez tous entendu parler, il y a énormément de problèmes avec cette nouvelle technologie d'antenne qui fait le tour du téléphone lui-même. Et pour moi, qui suis quand même un gros utilisateur de mon téléphone, je suis dans une situation où mon iPhone 4 ne marche pas aussi bien que mon iPhone 3GS, et où je me retrouve à perdre des communications, donc je suis en téléconférence et je passe beaucoup de temps au téléphone, et je perds la communication là où je ne l'avais jamais perdu avec mon 3GS. Et donc, on a régressé en termes de qualité d'appel. Donc c'est vrai, c'est un super device, mais je pense qu'en termes de... Je sais pas s'ils ont foutu, je sais pas s'il y a un bug dans l'OS, je sais pas si c'est un problème de défection de certains téléphones, mais Apple est en train de se prendre une class action lawsuit,
un procès groupé.
Un procès par des utilisateurs pour justement avoir en gros mis sur le marché un produit qui ne fonctionne pas.
C'est marrant quand même que tu aies de si gros problèmes avec, parce que le problème de l'antenne dont tout le monde a certainement entendu parler, qui fait effectivement les titres de tous les magazines tech avec raison, parce qu'il y a un gros problème d'antenne, n'a pas, à mon sens, de conséquences graves. Enfin, pour moi en tout cas, j'ai pas eu de conséquences graves sur la qualité des appels. Et la plupart des gens à qui j'ai demandé, même s'ils peuvent reproduire la réduction de la force du signal très facilement, la plupart des gens m'ont dit que la qualité des appels restait au moins aussi bonne que sur leur 3GS. Donc je suis surpris que pour toi ça ne fonctionne pas du tout. Peut-être que tu as un appareil qui est peut-être pas défectueux, mais qui a un moins bon... Enfin, qui a un problème, quoi. Parce que moi, vraiment, j'ai pas eu de soucis et j'ai passé un peu de temps à appeler. Et c'est un peu bizarre.
Enfin... Écoute, moi, le truc qui est important pour moi, c'est que la plupart de mes appels, je les passe depuis ma voiture. Et dans ces cas-là, je ne tiens pas le téléphone. Donc, c'est pas un problème de la death grip. Donc, le fait que tu tiens le téléphone à un certain endroit qui coupe le signal, puisque c'est posé dans un holster qui est fait pour ça. Et c'est possible que ce soit un problème de mon téléphone. Clairement, j'ai pris mon téléphone et je suis parti pour l'aéroport, donc j'ai pas eu le temps de vraiment retourner voir le Genius Bar, etc. Mais j'ai retourné quand je suis à la maison, donc dimanche, pour essayer de voir si je pourrais en récupérer un autre. Mais j'ai partagé en fait ce problème avec pas mal de copains, puis je me suis pas caché du problème sur Twitter, et j'ai pas mal de gens qui m'ont dit avoir expérimenté la même chose.
Ouais. Non, enfin, en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un problème énorme, à la fois d'image et de technique, d'autant plus qu'ils avaient, ils en avaient tellement parlé de cette nouvelle antenne mirifique et merveilleuse, ça fait très, 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 très sale, hein. Ça fait pas propre, c'est certain. Et
Moi, ce qui me surprend le plus dans cette histoire, c'est encore une fois cette extraordinaire arrogance, pratiquement insolente d'Apple par rapport à ça. Je me souviens de ce courrier qu'a envoyé cette personne qui a exactement la même expérience que Jeff avec son iPhone 4, qui perd ses appels et qui dit qu'il adore son iPhone 4, mais que voilà, c'est absolument insupportable. Et Steve Jobs lui répond juste, ben, vous n'avez qu'à ne pas me tenir comme ça.
C'est effectivement
une phrase, et voilà, vous n'avez qu'à ne pas le tenir comme ça, alors que la plupart des compagnies auraient essayé une phrase du type, même si c'est du pipeau, mais tu vois, un truc du genre, nous sommes vraiment désolés que vous ayez ce genre de cette mauvaise expérience, nous prenons tout en charge pour pouvoir améliorer votre expérience, cependant, nous vous recommandons de venir de statut, enfin, je sais pas, un truc.
Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Ce qu'il faut voir, c'est que là, c'est Steve Jobs qui répond en direct. Donc, il répond, c'est sûr que c'est une arrogance terrible. D'un autre côté, il peut pas vraiment, c'est compliqué, si tu veux. S'il s'excuse, ça veut dire qu'il admet la faute.
Ah, bah oui, bah écoute,
s'il admet la faute ensuite, il y a une question des conséquences juridiques, qui ensuite peuvent être utilisées contre lui dans un procès. Ça veut dire qu'il reconnaît que le téléphone ne fonctionne pas. C'est pas aussi simple que ça, mais il est évident que, je veux dire, je veux pas diminuer le fait que ça soit terriblement arrogant et que l'histoire soit scandaleuse, mais les choses sont pas aussi simples que ça. Si tu veux, tu peux pas dire, ah bah il aurait dû répondre, ah bah désolé, on a des problèmes, on va essayer de faire mieux. Il peut pas. Donc.
Mais bien sûr qu'il peut. Enfin bon, on va pas en faire un débat, mais. Ouais.
Voilà. On est en tout cas d'accord sur le fait que c'est effectivement un énorme problème pour Apple, et ça fait d'autant plus ridicule et scandaleux qu'ils ont vendu cette expérience avec cette... enfin, pas cette expérience, mais cette nouvelle technologie d'antenne comme la merveille de l'iPhone 4. Et entre parenthèses, ils ont mis des annonces pour engager des ingénieurs en antenne, ouais, pour téléphone portable. Donc, il est évident qu'ils ont des problèmes et qu'il semble que ça ne sera pas un problème réglé en logiciel comme on l'avait pensé les premiers jours.
Et c'est ça que je ne comprends pas. C'est... Bon, j'utilise des produits Apple depuis des années et des années et des années et des années, et je n'ai jamais, enfin, j'ai rarement vu un produit où on a un problème de cette taille au moment où ils le mettent sur le marché. Je veux dire, ils font énormément de tests, ils sont extrêmement précautionneux, ils ne lancent pas des trucs qui ne sont pas prêts, c'est pas leur style, c'est le style plutôt de Microsoft. Franchement, c'est très étonnant. Et le problème, comme tu le dis, Patrick, c'est que, bon, des fois, il y a des bugs sur les produits, on fixe les bugs, on update et on est bon, mais là, ça peut tout à fait être un problème de hard, c'est-à-dire quelque chose qui nécessite, en gros, de changer le téléphone, quoi.
Comme le dit Progos dans la chatroom, les tests étaient faits avec une coque de 3GS, donc ça pouvait, beaucoup de gens pensent que c'est ce qui a fait qu'ils n'ont pas vu le problème, puisque la coque protège du contact avec la main. Et
ouais,
que,
mais Jeff a eu le problème sans coque, sans contact,
dans sa voiture. Le problème de Jeff, j'ai l'impression que c'est, parce que quand les gens, la plupart des gens qui ont ce problème de le tenir un petit peu fortement avec la main, ne le tiennent pas de cette manière, le problème ne se pose pas du tout. Le fait de mettre une coque, par exemple, le résout complètement. Et Jeff, visiblement, là, dans d'autres conditions, donc. Je me demande si le sien n'a pas un problème différent encore. Mais Bon, en tout cas, encore une fois, ce qui est sûr, c'est que cette histoire de Steve Jobs qui répond « c'est pas un problème, tiens-le autrement », c'est devenu une sorte d'effet de mode sur Internet, et ça va rester pendant très longtemps, à mon avis, ça va devenir une sorte de réponse symptomatique. Quand quelqu'un exprime un problème, on va lui répondre « c'est pas un problème, tiens-le autrement », ça sera la plaisanterie, le mime du jour, et c'est pas la dernière fois qu'on va en entendre parler. Je pense que les gens des relations presse de chez Apple ont dû se tomber leur tête entre leurs mains quand Steve Jobs a répondu ça. Ils se sont dit merde, là il a dit une connerie plus grosse que lui et ça va nous ruiner pendant des mois. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr aussi, c'est qu'il continue à en vendre par brouette entière et les gens ne semblent pas vraiment se soucier de ses problèmes de réception.
C'est incroyable.
Ouais, bah moi j'avoue que bon, je n'appelle pas énormément avec, mais comme ça me pose pas de vrais problèmes en pratique, j'ai demandé aux autres camarades de l'émission Upload, dont je parlerai un petit peu plus tard, et eux non plus, ça les affecte pas tellement, donc ils gardent leur iPhone 4, quoi. Bref, je passe à ma news. Je vais en avoir deux, en fait. La première, c'est les chiffres de vente de Windows 7. Il s'est vendu, depuis la sortie de Windows 7, 150 millions d'exemplaires de Windows 7. Ce qui est un chiffre absolument monumental. Ça revient, si je ne m'abuse, à 7 exemplaires de Windows par seconde. Alors, quand on dit l'iPad, il s'en vend un toutes les 3 secondes, c'est très impressionnant, machin. 7 par seconde! Rendez-vous compte, c'est monumental. Alors, ça replace un petit peu les choses et ça donne l'occasion de reparler un petit peu de Microsoft pour dire que même si Apple a atteint la capitalisation boursière et dépassé la capitalisation boursière de Microsoft, ceux qui font de l'argent, enfin, Apple fait de l'argent évidemment, mais Microsoft en fait beaucoup plus. Et quand on parle de succès, le fait de regarder le succès de Windows 7 remet un petit peu les choses en place.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Et c'est un succès qui dépasse de très loin les succès des produits Apple et dont on ne parle plus tellement. Alors, moi, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas minimiser ce succès parce qu'il est évidemment énorme. Mais ce qui me met un tout petit goût amer dans la bouche, c'est que si le succès est vraiment énorme, c'est un succès qui est un petit peu tourné vers le passé. C'est-à-dire que Microsoft vit sur des acquis évidemment énormes, mais j'ai pas l'impression qu'il prépare suffisamment bien l'avenir. Comme le disait Yann, cette histoire de téléphone, de Kin, etc. montre une attitude un petit peu brouillonne, un petit peu trop brouillonne sur le marché des téléphones mobiles et de l'informatique grand public qui passe aujourd'hui par ce type d'appareil. Et comme le dit Progoz, encore une fois dans la chatroom, il y a énormément de licences entreprises, ce qui veut dire que c'est l'ancien gros marché de Microsoft et je crains qu'ils ne sont pas en train de préparer la suite. Et donc, le truc, moi, auquel je pense en regardant Microsoft, c'est que oui, ils ont encore beaucoup de succès et oui, ils ont Windows Phone 7 et ce qu'on disait il y a quelque temps, c'était ne perdons pas Microsoft de vue parce que Windows Phone 7 va revenir et tout mettre, remettre les points sur les i et remettre Microsoft dans la course. C'est vrai, c'est certainement quelque chose à prendre en compte. Mais moi, quand je vois ce qui se passe avec les operating systems, les
systèmes d'exploitation.
Systèmes d'exploitation, merci. Ce que je me dis, c'est que s'ils se ratent avec Windows Phone 7, ils sont vraiment, bon, pas vraiment dans la merde parce qu'ils ont Windows qui va mettre très longtemps à partir, mais l'avenir de Microsoft risque de devenir moins rose que ce qu'il est aujourd'hui. Je veux dire, Windows Phone 7, c'est un petit peu le moment où ils doivent réussir leur coup, quoi. S'ils ne réussissent pas leur coup, ça va commencer à sentir, pas le sapin, mais la pousse de sapin, quoi.
Ah, mais 150 millions de... Enfin, je crois que le succès de Windows 7 n'est plus à prouver. C'est bon, ils ont réussi leur coup avec des ventes comme ça. Je pense qu'ils n'ont plus à s'inquiéter par rapport au succès de Windows 7. Il y a un autre truc aussi qu'il faut voir, c'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'entreprises qui sont derrière. Et quand tu veux révolutionner le monde informatique avec un nouveau système d'exploitation et vraiment te tourner vers le futur, tu dois aussi conserver une rétrocompatibilité avec les applications qu'utilisent les entreprises. Et donc, du coup, ce boulet que tu tires t'empêche d'innover de la même façon qu'un Apple pourrait faire table rase, comme ils le font bien souvent, et qui casse tout, et qui refont tout depuis le début en cassant la rétrocompatibilité. Parce que de toute façon, ils sont fous, ils ont pas des contrats comme ceux que Microsoft a, et si jamais Microsoft va dire demain à TF1 ou à Orange, ben écoutez, Windows 8, ben ce sera plus du tout compatible avec les applications que vous avez dépensées des millions et des milliards de dollars pour les avoir. Ben, c'est juste pas possible, ils peuvent pas se permettre de faire ça. Donc du coup, cette rétrocompatibilité qu'ils sont obligés de conserver les freine dans l'innovation. Et donc, honnêtement, pour le moment, je suis pas du tout inquiet par rapport à cette masse énorme que représente le marché des entreprises pour Microsoft en tant que marché, quoi, en tant que client. Donc non, je dois avouer que sur ce coup-là, je partage pas vraiment ton point de vue. C'est faut voir.
C'est-à-dire que t'es pas du tout inquiet pour Microsoft parce qu'il. Je suis pas certain de comprendre ce que tu veux dire en fait.
Non, ce que je veux dire c'est que Windows c'est un système d'exploitation, mais c'est pas le seul truc que vend Microsoft. Il y a aussi toute la gamme Office, on a aussi les SharePoint, il y a tout un écosystème en fait autour de Windows, et c'est un écosystème qui utilise énormément de sociétés pour fonctionner aujourd'hui.
Ouais. Donc tu veux dire que Microsoft est tellement implanté dans les sociétés aujourd'hui, de toute façon ils vont y rester et ça reste un marché énorme qui les tiendra debout quoi qu'il arrive. C'est pas faux, mais tu sais, il fut une époque où IBM était dans la même position. Ils avaient les entreprises, c'était leur chasse gardée. Ils étaient les maîtres de l'entreprise. Ils n'ont pas vu venir le tournant des ordinateurs, des PC en fait, des ordinateurs personnels. Et ça a fini par les bouffer. Et moi, ce que je crains, c'est que bien sûr, ça sera pas demain ou dans deux ans, mais d'ici 5, peut-être 10 ans, si Microsoft rate le virage de l'informatique super grand public, est-ce que au final ils vont pas finir par se faire grignoter comme IBM l'a fait à l'époque? C'était aussi inimaginable que IBM se fasse bouffer, tu vois, et pourtant aujourd'hui ils veulent plus dire grand chose. Et ce qui a bouffé IBM, c'était pas un manque d'innovation, c'était un manque de manœuvrabilité de l'entreprise parce qu'elle était devenue trop grosse. Et beaucoup de gens observent ce qui se passe avec Microsoft en ce moment et font les mêmes remarques. Alors peut-être que justement les mouvements qu'ils ont fait en tuant le courrier qui était leur tablette et le Kin maintenant, c'est pour recentrer leur activité et justement offrir une expérience séduisante à l'utilisateur. Mais moi je me dis, c'est quand même un petit peu inquiétant ce qui se passe, quoi. Mais bon, tu as peut-être raison aussi, ils sont tellement implantés.
Ouais, faut voir.
Possible. Entre parenthèses, Molly Wood de Buzz Out Loud a fait un petit article sur les tablettes où elle disait qu'il était invraisemblable qu'il n'y ait pas de concurrence à l'iPad, alors qu'il y en avait eu énormément qui étaient annoncés au CES en janvier. Et aujourd'hui, l'iPad reste la seule possibilité sérieuse si vous voulez acheter une tablette. Et c'est vrai que Apple a la voie totalement ouverte devant eux et on se demande un peu ce que font les concurrents. Évidemment, il y a des explications pour tout, mais ils sont en train de prendre de l'avance. Dernière chose dont je voulais parler, c'était Google contre Viacom. C'est un procès qui dure depuis des années et des années, qui mettait en cause YouTube. Viacom, c'est une société américaine qui possède des chaînes de télévision. et donc qui avaient fait un procès à YouTube avant que Google ne les rachète parce que certaines de leurs émissions se retrouvaient sur YouTube. Alors, YouTube, sous la tutelle de Google, faisait tout son possible pour nettoyer et fait toujours tout son possible pour nettoyer le site, c'est-à-dire que quand Viacom ou d'autres envoient des requêtes en disant ce contenu est copyrighté, donc s'il vous plaît retirez-le de votre site, YouTube et Google font tout leur possible pour s'exécuter. Viacom disait ça n'est pas suffisant. Étant donné que ces contenus dont nous sommes propriétaires se retrouvent sur leur site, ils sont responsables et nous devrions pouvoir leur demander des dédommagements ou voire les faire fermer. D'une manière générale, sous le DMCA, le Digital Millennium Copyright Act, il y avait certaines clauses, disons que c'était pas la responsabilité n'était pas clairement établie, parce qu'il y avait une clause de safe harbor qui veut dire comment on peut traduire safe harbor? Disons que quand on est, ça veut dire que quand on est un fournisseur d'accès ou un fournisseur d'une plateforme, on n'est pas responsable de ce qu'ils font les utilisateurs de la plateforme. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme un éditeur d'un journal qui va rédiger le journal et le mettre en kiosque. On est simplement la personne qui fournit le service et on n'est pas responsable pour ce que les gens vont en faire. Et à partir du moment, la défense de Google et YouTube, c'était à partir du moment où nous faisons tout notre possible pour répondre aux demandes des propriétaires de contenu, nous ne devrions pas être poursuivis dans les tribunaux plus que ça. Viacom disait, on s'en fout qu'ils fassent ce qu'ils veulent ou ce qu'ils peuvent ou pas. À partir du moment où le contenu est chez eux, ils sont responsables. Nous devrions pouvoir faire des procès. Enfin, demander réparation. Alors, une décision de justice toute récente, en fait, a donné raison à YouTube et donc à Google et a dit qu'effectivement, un fournisseur de services n'était pas responsable de la manière dont les utilisateurs se servaient de ce service. Et c'est une décision extrêmement importante parce qu'elle va beaucoup plus loin que uniquement YouTube. Elle tombe sous le sens, en fait. C'est au sens de tous les technophiles quelque chose d'évident, mais qui n'avait jamais été entériné par les tribunaux. Alors évidemment, Viacom a annoncé qu'ils allaient faire appel de la justice et que appel de la décision, pardon, et évidemment le procès n'est pas terminé. Et comme le rappelle PhD0 dans la chatroom, c'est une décision aux États-Unis, évidemment. Donc ça ne couvre pas ce qui se passe en France où Adopi pourra condamner certaines personnes. Encore Progos dans la chatroom nous dit il y a des cas de négligence caractérisée qui font que avec Adopi on peut être responsable de certaines choses qui sont pas forcément de notre fait, mais il n'empêche, malgré tout ça, c'est un signal et une décision extrêmement importante à mon sens parce que elle dédouane les fournisseurs de services de ce que font les utilisateurs et c'est une avancée énorme pour la légitimité des gens qui feront qui offrent des services sur Internet.
J'ai parlé 10 minutes. Juste deux points. Donc, il dédouane les fournisseurs d'accès à condition que les fournisseurs d'accès se plient au terme de la DMCA, qui est donc la législation qui dit si jamais quelqu'un qui est propriétaire d'un contenu envoie à un service tel YouTube ou un fournisseur de blog une demande de takedown, à ce moment-là, ça doit être fait sous un temps raisonnable.
Et il y a aussi ce que faisait YouTube. YouTube se pliait à cette demande.
Et c'est ce que faisait YouTube, tout à fait. Et il y a la petite histoire aussi amusante à côté qui démontre que les gens de Viacom ont été pris la main dans le sac en train d'uploader eux-mêmes de leur contenu sur YouTube, de manière à pouvoir dire « Regardez, il y a un contenu sur YouTube.
» Oui, effectivement. Ça faisait pas très propre non plus. Mais je me demande si c'était pour ça ou simplement pour créer du buzz qu'ils uploadaient leur contenu sur YouTube. Je sais pas si c'était...
L'histoire ne le dit pas.
Ce qui est clair, c'est qu'ils mettaient eux-mêmes du contenu sur YouTube. Donc forcément, après, ils ont beau jeu d'aller se plaindre. C'est certain. Yann, ça t'inspire quelque chose ou on conclut?
Je vais pas dire grand chose, mais moi je sais pas si c'est forcément une bonne chose en fait cette décision. Cette idée de finalement dire moi je ne suis qu'un fournisseur de services donc finalement ça déresponsabilise un peu le fournisseur de services qui vont sûrement en profiter après par la suite et pourquoi pas profiter proposer du contenu illégal. Enfin,
comme le dit Jeff, ça ne les dédouane pas de répondre aux demandes des propriétaires de contenu.
Oui, ils peuvent pas faire n'importe quoi.
Oui, on est d'accord, mais c'est quand même un pas dans cette direction et j'ai quand même peur des effets négatifs que ça pourra avoir, tu vois. Le fait de dire non, je suis juste un fournisseur de services, donc tu peux mettre ce que tu veux, de la pédophilie, n'importe quoi sur mon service. Tant qu'on m'a pas dit, bah écoute, ça c'est pas bien, enlève-le de ton site, bah du coup, je peux continuer à faire du beurre avec la publicité qu'il y a sur mon site, tu vois.
Donc je crois que tu vas un petit peu loin dans l'autre sens quand même, hein.
Oui, mais je dis juste que voilà, c'est juste une inquiétude que j'ai. Mais je pense pas forcément que ça ira jusque-là, mais je dis qu'il faut juste faire attention à ce genre de choses, quoi. Parce qu'il y a une certaine hypocrisie quand même autour de ça.
Ouais, mais disons que l'alternative, Yann, c'est que si jamais quelqu'un, par exemple, quelqu'un veut proposer un service comme YouTube et quelqu'un d'autre l'utilise pour mettre en ligne un contenu qui est protégé, du coup, le propriétaire du contenu peut faire fermer YouTube. Ça veut dire qu'il y a une quantité de sites qui fonctionnent sur ce type de principe sur Internet qui seraient du coup automatiquement fermés. Ouais, C'est quand même un autre extrême qui n'est pas souhaitable.
Tu trouves pas qu'il y a un peu d'hypocrisie quand même là-dedans? Enfin, quand tu regardes des trucs comme, je sais pas moi, comme Emule, comme Pirate Bay, c'est clairement des gens qui savent clairement quoi que c'est essentiellement pour du piratage que ces trucs-là sont créés. Pirate Bay, quand même, tu t'attends pas à pouvoir retrouver tes fiches de cours sur un site.
Non, je suis d'accord, mais je crois que tu mets deux choses dans le même sac alors qu'elles sont un peu différentes. Je veux dire, dans le cas de YouTube, il y a énormément d'usages totalement légaux de YouTube et en plus, YouTube fait tous les efforts du monde pour virer les contenus illégaux. Donc, c'est pas exactement la même cam non plus.
Non, mais je parle pas de YouTube. On parlait de ça comme étant un précédent et que donc du coup ça va pouvoir s'appliquer dans d'autres situations. Et c'est les autres situations qui m'inquiètent. Dans le cas de YouTube, je suis ravi, je suis content et la petite publicité avec l'extrait, les parodies du film d'Hitler là où on faisait des parodies avec la sorte de la PS3 et tout. Moi, je suis déçu que ces vidéos ne soient plus là et donc du coup on va pouvoir retrouver encore du contenu sympa sur YouTube. Et je suis content, mais après c'est pour les autres. Les autres situations où j'ai peur que ça dérive un petit peu.
Vigilant face aux dérives, quoi.
Voilà, exactement.
Et il est toujours bon de l'être. Ok, bah écoutez, on a quand même fait un petit tour des informations les plus importantes. Je crois qu'on va s'arrêter là pour cet épisode qui sera quand même un petit peu mini. Avant de nous quitter, on va quand même dire un petit mot de la nouvelle formule du podcast Upload. Si vous n'avez jamais écouté ce podcast, peut-être que c'est le moment de le découvrir. Vous allez sur nowatch.fm et vous pouvez être redirigé vers le podcast Upload qui est un podcast sur toute la mobilité et que nous venons de passer en fait en version 2.0 avec Jérôme, avec qui nous l'animions jusque-là. Eh bien, nous avons ajouté deux animateurs. Corben et Cédric Bonnet nous ont rejoints. Nous avons doublé le rythme de parution, donc c'est toutes les semaines maintenant. Et donc, entre ce rythme de parution et ces animateurs, nous couvrons non seulement l'iPhone et l'iPad, mais en plus Android, BlackBerry et tous les téléphones et les appareils mobiles. Donc, je pense qu'il y en aura maintenant un petit peu pour tout le monde. Donc, j'espère en tout cas que ça vous plaira. N'hésitez pas à aller l'écouter. Vous allez sur nowatch.fm et vous écoutez ça et vous nous dites si ça vous plaît ou pas. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, je crois que c'est un petit peu plus dynamique, un petit peu plus sympa. Et comme je le disais, ça couvre un petit peu de tout. Donc, il n'y a pas de mauvais côté à ce changement. Au contraire, c'est que du bon, à mon sens. Et évidemment, l'autre partie de la conclusion, c'est de demander à Jeff et Yann s'ils ont quelque chose à ajouter ou quelque chose à pimper, un endroit sur Internet où vous retrouvez, par exemple, Jeff, peut-être.
On peut me retrouver sur ce truc qui s'appelle Twitter. L'ID, c'est Jeff. Et aujourd'hui est une journée à la fois joyeuse et triste. Joyeuse parce que j'ai retrouvé Patrick, on a dîné ensemble. Et triste parce que j'ai vendu une de mes boîtes Tapuleuse, qui était une de mes favorites à Disney. Donc voilà, j'en suis content parce qu'évidemment on a fait de l'argent dessus, mais c'est quand même triste parce que c'est une super boîte et j'adorais travailler avec eux.
Bah, c'est une nouvelle quand même sympa dans le monde de la technologie. Ça veut dire que cette toute petite boîte qui a commencé sur iPhone est devenue grande maintenant et elle est dans la cour des grands et tu l'as aidé à grandir. Donc c'est vrai que c'est une, une nouvelle sympathique.
Oui, c'est rigolo parce qu'en fait, elle avait commencé dans mes bureaux. En fait, c'est une boîte que j'avais plus ou moins incubée dans ce qu'on appelait au bureau le fishbowl. Donc, c'était une pièce qui était assez petite avec plein de vitres autour. Et c'est là où en fait l'équipe de Tapulous a lancé Tap Revenge quand ils étaient quatre avec des écrans partout, etc. Et c'est vrai que c'est plein de bons souvenirs de 3 ans de travailler ensemble, quoi.
Tu peux pas nous dire pour combien tu l'as vendu, bien sûr.
Ah non.
Ah, damnée.
C'est la question que tout le monde, j'ai reçu une dizaine d'emails, des DM sur Twitter, j'ai des messages, je t'ai montré d'ailleurs pendant le dîner qu'est-ce qu'il m'a appelé. C'est ce que tout le monde veut savoir et je peux pas du tout en parler.
Bon, bah en tout cas, on se doute que c'est une opération. On ne sait pas si elle est belle financièrement, mais belle humainement, puisque ces braves gens ont réussi leur coup et maintenant ils font partie d'une grosse boîte. Et si vous ne connaissez pas encore les jeux de Tapulous, n'hésitez pas à aller les découvrir sur iPhone et iPad, puisque évidemment, si Disney les a achetés, c'est qu'ils doivent faire quelque chose de bien.
Absolument.
Et puis maintenant, c'est à Yann de nous dire ce qu'il fait de beau.
Bah écoutez, comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur Twitter, twitter.com/YannAlet, YannAlet. Et oui, à partir de là, vous trouverez globalement mon actualité, quoi. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez y aller.
Super, et moi c'est twitter.com/NotPatrick ou facebook.com/notepatrick. Les deux fonctionnent et les deux sont sympathiques et parfois différents. Donc si vous êtes sur l'un, allez voir sur l'autre. Il y a des choses qui ne se recoupent pas. Moi, je fais pas du recyclage. Et on me demande dans la chatroom si je vais couvrir l'ouverture de l'Apple Store de l'Opéra. Et non, puisque je pars en vacances. Ouais. Non. Bon, je vais pas sur la plage, mais je vais dans les steppes glacées du Grand Nord. Mais bon, ça va être sympa, je vais faire un petit break d'une dizaine de jours. Peut-être que je serai un petit peu sur Twitter, mais à part ça, break complet. Donc, si vous voulez suivre un petit peu ce qui se passe, un petit peu de Twitter. Mais je reviendrai en tout cas en super forme dans une dizaine de jours avec un prochain rendez-vous tech qui sera... Attends, ça sera quand? Le 19. On aura quand même un upload le 12 et un rendez-vous tech le 19. Et tout plein de choses, bien sûr, sur nowatch.fm que vous pourrez suivre très facilement depuis cette adresse-là. On vous remercie tous de nous avoir suivis et puis on vous dit à dans 15 jours et dans un mois pour les deux ozos. Ciao à tous. Oui.
Bonnes vacances. Profitez.
Merci.
Bien.
Ciao à tous.
Ciao, bye.
Allez.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.